Là, je voudrais vous rappeler le leitmotiv de l'IBG. Si vous avez été sur notre site ou si vous connaissez un tant soit peu l'IBG, vous savez que notre leitmotiv, c'est « Vous ne choisirez plus entre la théorie et la pratique ». Et on trouve que le professeur Don Carson incarne bien cet équilibre, puisque c'est un érudit. Il enseigne à Trinity, dans une faculté à Chicago. Il occupe la chaire de Nouveau Testament, mais il voyage aussi beaucoup. Il est invité dans le cadre de pastoral un peu partout dans le monde. Il a ce souci d'encourager aussi ses étudiants à évangéliser. Et ça nous plaît beaucoup parce que ce n'est pas une option. Il est régulièrement sur les campus universitaires, il sillonne le monde et il donne des conférences et il prêche l'évangile sur les campus. Et je pense que c'est important de ne pas être juste des théologiens dans des tours d'ivoire, déconnectés de la réalité, mais en phase avec les préoccupations des gens. Et bien sûr, l'essentiel, c'est finalement de ramener, d'enseigner, de prêcher l'évangile. On va vivre deux grands moments. Aujourd'hui, il va surtout traiter de la substitution pénale, Don, si j'ai bien compris. Et à partir de demain jusqu'à jeudi midi, il traitera du problème épineux du mal et de la souffrance. Et sans plus attendre, je lui cède la parole.
Eh bien, je bénis Dieu pour ces trois jours et demi ensemble. Demain, Dieu voulant, nous allons aborder la question de la théologie de souffrance. Et malheureusement, je vais vous faire souffrir, surtout par l'abondance d'erreurs dans mon français. Mais on commence aujourd'hui avec la croix et surtout la doctrine de la substitution pénale. J'aimerais commencer avec quelques livres. Le meilleur livre publié récemment en français à ce sujet, à mon avis, c'est ce livre sous la direction de Pierre Berthoud et Paul Wells, Sacrifice et expiation. Vous l'avez vu? Ça vient d'être publié il y a 3 mois à peu près. Sacrifice et expiation, ce que je ferai ce matin dans la première heure, ça aborde la question touchée par Jacques Bouchold. Dans son chapitre, dans ce livre. Ça vaut la peine de l'acheter, de lire attentivement. Si vous savez lire l'anglais, j'ai 3 autres livres à mentionner. Le meilleur, ça fait à peu près 2 ans que c'est publié, « Pierced for Our Transgressions, Rediscovering the Glory of Penal Substitution », rédigé par Steve Jeffrey, Michael Ovi, Andrew Sack. Pierced for Our Transgressions. Maintenant, ce livre inclut à la fois exégèse, l'histoire de la doctrine et la théologie systématique. Donc, c'est un peu plus avancé, c'est un livre de synthèse, mais ça répond aussi à l'attaque contre cette doctrine qu'on trouve assez souvent à travers l'histoire. C'est le meilleur de ces 4 livres, je dirais, mais c'est un peu plus difficile à lire, il faut l'admettre. Plus brièvement, tout récemment, Mark Dever et J.E. Packer ont publié « In My Place Condemned He Stood ». In My Place Condemned He Stood. Quelques essais que ces 2 hommes ont publiés à travers les dernières 30 ans, touchant la croix. Et ce sont des essais qui sont déjà des essais classiques dans le monde anglais. In My Place Condemned He Stood. Si vous voulez lire seulement 2 des 4 livres, je dirais commencez avec Sacrifice et Expiation et ensuite ce livre ici. Et finalement, Peter Bolt, The Cross from a Distance. Il faut expliquer ce livre un petit peu. Aujourd'hui, il y a une tendance d'examiner l'enseignement de Jésus, la prédication de Jésus, déjà déchiré de la croix, déjà dans un autre sujet, dans un autre comportement presque. Ce qu'il fait, Peter Bolt, B-O-L-T, dans son livre, The Cross from a Distance, c'est qu'il étudie tout simplement l'évangile selon Marc pour démontrer que chaque péricope, touche la question de la croix, qu'il faut lire tout le livre ensemble. Et dans le cas des quatre évangiles, après tout, il y a le même trame d'histoire. Tous les péricopes visent vers la croix et la résurrection, n'est-ce pas? Et ce qu'il fait dans l'évangile selon Marc, nous allons faire un peu plus tard dans l'évangile selon Jean. Et avec quelques exemples de Matthieu, seulement pour vous démontrer qu'il faut lire ces évangiles comme un livre chacun, c'est-à-dire avec une histoire, avec le triomphe de la croix et de la résurrection comme la chose finale qui complète l'histoire, en effet. Que c'est une grande erreur d'essayer de comprendre l'enseignement de Jésus sans comprendre le trame de chaque évangile. The cross from a distance. Ça va vous aider à comprendre et à prêcher l'évangile selon Marc, si l'anglais n'est pas une barrière. Eh bien, j'ai un ami, un évêque anglicain, assez bien connu dans le monde anglais, qui prêche assez souvent. Mais malheureusement, à mon avis, il introduit une grande erreur dans sa prédication. Quand il prêche, l'histoire de la Bible qu'il présente va à peu près comme ceci. Et je veux que vous reconnaissiez l'erreur dans cette trame de l'histoire biblique. Au début, Dieu a tout créé et la création était bonne. Malheureusement, dans notre rébellion, nous sommes tombés dans la jalousie, dans le meurtre, dans l'envie, dans la haine. Nous avons corrompu nos relations, nous avons corrompu nos mariages, ainsi la guerre. Et en fin de compte, nous avons corrompu la terre que Dieu nous a confiée. Et nous avons tout détruit et cette destruction continue aujourd'hui. Mais grâce à Dieu, à maintes reprises à travers l'histoire, Dieu nous a visités. Il nous a visités dans la Shoah d'Abraham, un homme de foi, dans le don de la loi, sous la direction de Moïse, chez les grands prophètes, dans le royaume d'Israël et du roi David. Et enfin, à la fin de l'histoire, il nous a envoyé son Fils, qui a détruit le mal, qui a souffert ce mal lui-même dans son corps et qui est ressuscité d'entre les morts et maintenant il est déjà le roi des rois. Toute autorité m'a été confiée, il a dit. Le royaume a déjà débuté et nous sommes participants dans ce royaume. C'est à nous déjà, les enfants du royaume de Dieu, les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, de prêcher le royaume, de vivre sous la direction, l'autorité du royaume, d'enseigner ce que le Seigneur lui-même enseigne, pour être une espèce d'anticipation du royaume consommé qui arrivera à la fin. Donc déjà aujourd'hui, nous devrions confronter la guerre et l'envie et le malin. Et nous devrions être responsables dans la création que Dieu nous a donnée. Voilà notre discipline. Voilà ce que ça veut dire d'être des disciples fidèles de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout simplement une question de la foi, mais aussi de l'obéissance. Voilà ce qu'il faut prêcher aujourd'hui. Voici l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que c'est une présentation fidèle? C'est une présentation assez populaire. Est-ce que vous l'avez entendu, peut-être, en France, en Suisse? Ce qui n'est pas là, ce qui se manque, ce qui n'est pas dans ce trame de l'histoire biblique, c'est une connaissance profonde du problème. Dans la parole de Dieu, nos problèmes ne sont pas toujours à l'horizontale. La nature de l'offense, c'est premièrement contre Dieu. Dans la Bible, qui parle assez souvent de la colère de Dieu, qu'est-ce qui attire la colère de Dieu le plus souvent? La jalousie? L'injustice? Le fait que nous ne sommes pas suffisamment verts? Non. C'est l'idolâtrie. C'est la dédéification de Dieu. Choisir d'autres dieux. Et donc, à travers l'histoire de la Bible, le plus grand problème, ce ne sont pas les relations à l'horizontale, mais la relation manquée entre Dieu et les êtres créés en son image. Comment être réconcilié à ce Dieu? Comment est-ce que Dieu peut laisser à côté sa colère devant nos offenses? Vous n'avez que chercher dans une concordance chaque instant du mot colère pour vous rendre compte que ce que je viens de dire a raison. Et à moins que nous soyons en accord avec ce que la Bible dit en ce qui concerne le problème, il est impossible que nous soyons en accord avec ce que la Bible dit en ce qui concerne la solution. Donc, si nous ne comprenons pas véritablement ce que dit la Bible en ce qui concerne le péché, le problème vertical, nous n'allons pas comprendre la croix. Deux autres points de départ. Je fais des missions, des conférences d'évangélisation dans les universités anglophones depuis 30 ans, 35 ans. Mais à travers les dernières 12 ans à peu près, 15 ans, j'entends deux questions que je n'ai jamais entendues avant. Et maintenant, dans chaque instant d'évangélisation, ces deux questions sont posées, sans faillite, sans exception. Les deux questions? Premièrement, pourquoi est-ce que Dieu veut être glorifié? Chez les êtres humains, si quelqu'un veut toujours être glorifié, on dirait qu'il est orgueilleux. Pourquoi pas en tirer la même conclusion? Dieu est orgueilleux. Il veut que nous soyons saints, mais dans sa soi-disante sainteté, il veut toujours qu'on le glorifie. C'est l'amour propre, ça, ce n'est pas l'amour. Comment y répondre? Deuxièmement, si Dieu veut nous pardonner, pourquoi pas tout simplement nous pardonner? Il veut que nous nous pardonnions l'un l'autre, n'est-ce pas? Pourquoi pas tout simplement nous pardonner? Pourquoi tant de sang? Pourquoi tant de sacrifices? Tous ces brebis, les boues de l'Ancien Testament? Pourquoi tout cela? Pourquoi pas tout simplement nous pardonner? N'a-t-il pas assez de puissance pour le faire? Il y a 15 ans, je n'entendais jamais ces questions. Maintenant, à chaque conférence d'évangélisation, dans le temps de questions et réponses, je les entends à chaque instant, les mêmes questions, chaque fois. Est-ce que vous les entendez ici, en France, dans le monde français? Sinon, probablement, c'est parce que vous ne passez pas assez de temps avec les inconvertis dans la discussion théologique. Parce que ces questions, maintenant, sont partout dans le monde occidental. Eh bien, ce matin, dans notre première session, nous allons examiner Romains chapitre 3, 21 à 26. Romains chapitre 3, 21 et 20, à 26. Et ensuite, Romains 3, 27, à la fin de chapitre 4. Et après cela, quelques passages chez l'Épître aux Hébreux. Et après cela, quelques passages chez Matthieu et Jean, et ensuite une synthèse. Romains chapitre 3, versets 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Avant d'aborder ce passage, il faut se souvenir du fait que, commençant avec chapitre 1, verset 18, l'apôtre Paul parle de la colère de Dieu. Chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, et ainsi de suite. Et l'apôtre Paul nous donne 2,5 chapitres pour condamner tout le monde, grec et juif ensemble. Les derniers versets de cette section, chapitre 3, verset 9, à verset 20, c'est une récitation de passages bibliques qui, franchement, pour notre culture, semble un peu dur, un peu inflexible, un peu intolérant. Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Absolument pas. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Écoutez bien. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas Médecins sans frontières, peut-être? Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Nul n'est intelligent, même à la Sorbonne, l'Université de Genève, peut-être? Tous se sont égarés, ensemble ils sont pervertis. Pervertis? C'est l'intolérance, ça, n'est-ce pas? Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Bon, c'est bien pour condamner les autres comme cela, mais pas moi. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour épandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Aujourd'hui, quand je prêche dans les universités, le monde en général est tellement ignorant de ce que dit la Bible qu'ils ne savent pas qu'il y a 2 testaments. Ils n'ont jamais entendu parler d'Ésaïe ou d'Abraham. Peut-être Moïse, mais probablement c'est plutôt Charlton Heston. Quelle donc est la doctrine la plus difficile à expliquer dans ces circonstances? La Sainte Trinité? Non. Franchement, c'est facile d'expliquer la Sainte Trinité en comparaison avec une ou deux autres. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que c'est une doctrine facile. C'est parce qu'ils sont tellement ignorants qu'ils ne savent pas quelle sorte de questions qu'il faut poser. La résurrection de Jésus-Christ? Oh, les chrétiens croient à cela, hein? Oui, c'est intéressant. C'est intéressant, mais ce n'est pas bouleversant. Ce n'est pas vraiment difficile. C'est un peu ridicule, peut-être, mais pas difficile. Quelle est la doctrine la plus difficile à exposer? C'est la doctrine du péché. Parce qu'à ce point, nous devenons intolérants dans le point de vue de la culture occidentale aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais à moins que le monde sache qu'ils sont véritablement coupables devant Dieu, pécheurs devant Dieu, comment crieront-ils pour le pardon? Comment faire du bon sens en ce qui concerne la croix, en ce qui concerne la solution que Dieu lui-même nous donne? Et si j'avais assez de temps, je prendrais maintenant 3 ou 4 heures pour vous donner des suggestions, comment expliquer ce que dit la parole de Dieu en ce qui concerne le péché. Il y a des choses qu'on peut dire sans affaiblir ce que dit la Bible, mais avec une espèce de sensibilité envers la culture. Un des meilleurs orateurs à ce sujet, il me semble, au temps présent, c'est Tim Keller, un presbytérien à l'église Redeemer à New York. Son livre récent en anglais, c'est « The Reason for God ». Et c'est le meilleur apologétique que je connais aujourd'hui en anglais à cet égard. The Reason for God. J'espère que ça sera traduit en français. À ce point, ce n'est pas encore traduit, mais c'était publié il y a seulement 3 mois ou 4 mois. Donc, il faut laisser au moins un peu de temps. The Reason for God par Tim Keller. K-E-L-L-E-R. Maintenant, après avoir démontré donc l'injustice, la culpabilité de tout le monde, à ce point, l'apôtre Paul dit, mais maintenant, sans la loi et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il établit dans ce paragraphe? 4 choses. Premièrement, l'apôtre Paul établit la relation entre la justice de Dieu et la loi. Il établit la relation entre la justice de Dieu et la loi. Verset 21. Mais maintenant, dans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, et ainsi de suite. Que faut-il comprendre par maintenant? Qu'est-ce que c'est la différence qu'il a en vue? Si vous lisez les commentaires, vous allez trouver une longue liste de suggestions. Une liste assez commune, même chez les évangéliques, bien connus et respectés, mais il me semble que c'est une erreur. C'est la différence entre la présentation de Dieu dans l'Ancien Testament et la présentation de Dieu dans le Nouveau Testament. Ce qu'on présente, c'est à peu près ceci. Dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, Dieu se présente comme un Dieu de justice, de sainteté, de transcendance. Et donc, c'est un Dieu, des fois, en colère, parce que, après tout, il veut protéger sa sainteté. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu se présente comme la solution. Dieu se présente comme le Dieu et Père de son bien-aimé Fils. Il donne son Fils pour nous sauver. Jésus est Dieu manifesté en chair, toujours doux et toujours celui qui nous aime jusqu'au point de la croix. Voici la délivrance, voici la solution, voici la manifestation suprême de l'amour de Dieu. Ce n'est pas comme si l'Ancien Testament ne mentionne pas l'amour de Dieu, mais il y a un tel emphase sur cette doctrine sous la Nouvelle Alliance que Paul peut dire autrefois la condamnation, autrefois le péché, autrefois la colère de Dieu, mais maintenant. Et ensuite, il nous donne une exposition de la croix. Malgré le fait que cette idée est assez commune, il faut, il me semble, le rejeter. Même dans l'Ancien Testament, Dieu se présente comme un Dieu qui est lent à se mettre en colère, un Dieu qui est un Père, qui connaît nos faiblesses. Il faut le relire, par exemple, Psaume 40, ou Psaume 23. Ou le prophète Osée, où Dieu se présente comme un mari qui a subi l'infidélité de son épouse. Un Dieu qui crie, qui nous invite. Et dans le Nouveau Testament, la personne qui introduit la plus grande quantité de métaphores en ce qui concerne l'enfer, c'est Jésus. Et en plus, nous trouvons dans le Nouveau Testament des passages comme ceci. Apocalypse chapitre 14, verset 18. Un autre ange qui avait pouvoir sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante en disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la fureur de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville. Du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades, 300 kilomètres. Eh bien, dites-moi que dans le Nouveau Testament, Dieu est plus gentil. Je dirais plutôt que de même façon que quand nous passons de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a une augmentation dans le portrait de l'amour de Dieu. De même façon, quand nous passons de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, il y a une augmentation dans le portrait de la colère et la justice de Dieu. Mais la raison pour laquelle nous ne nous rendons pas compte de ce fait, il me semble, c'est parce qu'en général dans notre société, même dans l'Église, nous avons plus grande crainte en ce qui concerne la guerre, le plaie, la destruction mortelle que l'enfer. L'enfer demeure tout simplement un point crédal. Crédal? Credo. Ça reste un point du credo et pas quelque chose qui nous encadre, qui nous définit, qui a une réalité dans notre esprit, dans notre connaissance, dans notre croyance, dans nos attitudes, vous voyez? Mais qu'est-ce que ça veut dire donc, mais maintenant? Quel est le point de la différence? Ce que Paul fait, c'est assez clair, il me semble. Il établit la relation entre la justice de Dieu et la loi. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. C'est-à-dire, la justice de Dieu est toujours manifestée sous l'ancienne alliance dans le cadre de la loi. Mais l'alliance de la loi est maintenant terminée. Maintenant, la justice de Dieu est présentée sans la loi. Maintenant, la justice de Dieu est présentée sans, est manifestée sans la loi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien, qu'il n'y a pas de connexion avec la loi. Parce que nous lisons que cette justice de Dieu est attestée dans la loi et les prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas que la loi continue comme l'alliance de la loi. Ailleurs, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 9, l'apôtre Paul dit clairement qu'il ne se voit pas sous la loi. Il est maintenant libre de la loi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de lien autour de lui, qu'il n'y a pas de responsabilité. Il est sous la loi à Christ. Mais quand même, il se dit un homme sans la loi. Il faut se présenter comme un juif, comme étant sous la loi, même s'il n'est pas sous la loi. Pour lui, la loi est terminée. Mais quand même, ça ne veut pas dire qu'on peut déchirer nos Anciens Testaments maintenant. Parce qu'il insiste que la loi et les prophètes, ce que nous appelons l'Ancien Testament, attestent la justice de Dieu. Je reviendrai à ce point un peu plus tard. Mais à la fois, l'apôtre Paul veut dire que les chrétiens qui comprennent véritablement l'Évangile ne sont pas sous l'alliance de la loi, mais quand même que l'alliance vise vers l'avenir. La loi donne son témoignage. La loi atteste. La loi aspire vers. La loi annonce. La loi prédit même. Et donc, la solution à tout cela, c'est l'accomplissement de la loi, comme le Seigneur Jésus lui-même enseigne dans Matthieu chapitre 5, verset 17. Il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Ça ne veut pas dire il n'est pas venu pour abolir, mais pour préserver, mais pour accomplir. Et le verbe pléraō, utilisé 23 fois chez Matthieu, a toujours le sens, chez Matthieu, d'accomplir dans un sens prophétique, c'est-à-dire la loi annonce, la loi nous donne des attentes, la loi prédit, et maintenant nous arrivons à l'accomplissement de la loi. De même façon, l'apôtre Paul dit qu'il n'est maintenant plus sous l'alliance de la loi, et maintenant la justice de Dieu est manifestée sans la loi. Mais quand même, cette justice est attestée dans la loi et les prophètes. Ça, c'est le premier point que l'apôtre Paul établit. Deuxièmement, Paul établit que cette justice est disponible à tout le monde, juif et grec, mais à condition de la foi. Paul établit que cette justice est disponible à tout le monde, juif et grec, mais à condition de la foi. Surtout verset 22 et verset 23. Commençons de nouveau avec verset 21. « Mais maintenant, sans la loi, manifestez la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Maintenant, il faut prendre quelques instants pour examiner cette expression « par la foi en Jésus-Christ ». Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous qui étudiez ces expressions, vous qui lisez les commentaires récents, vous savez aussi bien que moi que en Jésus-Christ, foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire génitif, objectif, est compris par un grand nombre d'interprètes aujourd'hui avec une autre signification, c'est-à-dire génitif subjectif, c'est-à-dire justice de Dieu par la fidélité de Jésus-Christ. Le mot rendu foi, dans la version Colombe que je lis, peut être compris fidélité. Ça dépend complètement du contexte. Et le génitif peut être subjectif et pas objectif. Et cela nous donne plutôt l'expression justice de Dieu par la fidélité de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Et maintenant, il n'y a rien d'erreur d'orthodoxie dans cette traduction. Après tout, la Bible présente la fidélité de Jésus-Christ assez souvent, surtout dans l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? La fidélité de Jésus-Christ. Et dans l'Évangile selon Jean, pourquoi est-ce que Jésus va à la croix? C'est parce qu'il veut faire la volonté de son Père, n'est-ce pas? Même à la fin de Jean chapitre 14, il insiste que tout le monde doit reconnaître qu'il aime le Père et qu'il fait toujours ce que le Père lui donne à faire. Voici la fidélité de Jésus-Christ. Et en plus, il y a un autre détail du texte qu'il faut reconnaître. En français, le mot « foi », le nom « foi » et le verbe « croire » semblent être deux mots, c'est-à-dire avec deux racines différentes, « foi » et « croire ». Mais en grec, c'est la même racine. On pourrait traduire peut-être justice de Dieu par la croyance en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Maintenant, si nous maintenons la traduction traditionnelle, il semble que c'est un peu de répétition, n'est-ce pas? Justice de Dieu par la croyance en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Mais si nous lisons plutôt le génitif subjectif, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de répétition. Nous lisons plutôt justice de Dieu par la fidélité en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Donc, nous avons détruit la répétition et c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas une bonne chose. Je comprends d'où vient cette tendance dans les traductions modernes, mais c'est une erreur quand même. Premièrement, la foi, toujours dans ces deux chapitres, Romains 3 et Romains 4, et nous allons voir que le mot foi se retourne à maintes reprises à travers ces deux chapitres. Dans chaque cas, le mot foi a comme objet Jésus-Christ. Et ça prendrait un contexte extrêmement clair pour faire une exception ici. C'est la foi en Jésus-Christ. Mais pourquoi donc y a-t-il dans ce contexte cette répétition avec la traduction justice de Dieu par la croyance en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient? Comment comprendre cela? Eh bien, c'est à ce point qu'il faut examiner verset 23. Car il n'y a pas de distinction et ainsi de suite. La raison pour cette répétition dans verset 22 se trouve dans verset 23. Verset 22, justice de Dieu par la croyance en Jésus-Christ. C'est-à-dire pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés. Ce sont ces deux versets ensemble, verset 22 et verset 23 ensemble, qui attachent cette péricope aux deux chapitres et demi précédents. De Romains chapitre 1, verset 18, jusqu'à chapitre 3, verset 20, l'apôtre Paul défend la culpabilité de tout le monde, grec et juif. Qui donc peut être sauvé? Les juifs parce qu'ils sont juifs? Les juifs parce qu'ils ont la loi? Mais nous ne sommes plus sous la loi. La loi était un témoin à la justice de Dieu, mais la justice de Dieu, verset 21, est maintenant manifestée sans la loi. La loi est seulement un témoin en ce qui concerne l'arrivée de cette justice de Dieu qui est maintenant manifestée. Comment donc être sauvé? Mais c'est par la foi. Car tous ont péché. Ça prend la foi parce que, après tout, ce n'est pas le système de sacrifice de l'ancienne alliance maintenant. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient. Voilà la raison pour la répétition. C'est pour souligner tous ceux. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, l'apôtre Paul établit que cette justice est disponible à tout le monde, juif et grec, mais à condition de la foi, verset 22 et verset 23. Et dans quelques instants, il reviendra à cette question de la nature de la foi dans verset 27 et suivant, mais nous y retournerons tout à l'heure. Troisièmement, Paul établit que la fondation de cette justice, c'est la mort propitiatoire de Jésus-Christ. Paul établit que la fondation de cette justice, c'est la mort propitiatoire de Jésus-Christ. versets 24 et 25a. Paul établit que la fondation de cette justice est la mort propitiatoire de Jésus-Christ, versets 24 et versets 25a. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, et ainsi de suite, afin de montrer sa justice. Comment comprendre ce mot « expiation » dans la version Colombe, ou l'expression que j'ai utilisée, « la mort propitiatoire » ? En français, autant que je sache, il n'y a pas un mot véritablement français « propitiation ». Nous parlons des fois de la mort propitiatoire, mais qu'est-ce que ça signale? Donc, quelques définitions et un peu d'histoire ici. Expiation signale l'annulement du péché. Et l'objet d'un tel sacrifice, un sacrifice d'expiation, c'est le péché. Le résultat, c'est l'annulement du péché. Mais en français, assez souvent, l'expression expiation inclut à la fois l'annulement du péché et une assomption de mort propitiatoire, une propitiation. Donc, je vais utiliser le mot propitiation, même si ce n'est pas un mot en français. Il y a deux expressions complètement différentes en grec et en hébreu. Et donc, ce n'est pas que je veux imposer l'anglais à cet égard. Ça, c'est une distinction biblique, grec et hébreu, et pas tout simplement une distinction qu'on trouve en anglais. Et on le trouve en français quand on parle pas de la propitiation, mais d'un mort propitiatoire. Dans un mort propitiatoire, dans une propitiation. L'objet, c'est Dieu, pas le péché. C'est un sacrifice qui rend Dieu propice, c'est-à-dire favorable. Avec l'expiation, l'objet, c'est le péché. Avec la propitiation, l'objet, c'est Dieu. Maintenant, dans le monde païen, ce n'est pas le monde chrétien, soit l'Ancienne Alliance, soit la Nouvelle Alliance. Dans le monde païen, ces deux notions sont assez claires. Moi, l'individu, je présente un sacrifice pour annuler mon péché devant les dieux. Voilà l'expiation. Ou je présente un sacrifice pour attirer la grâce, le faveur des dieux. Peut-être je veux faire un voyage sur la mer méditerranéenne. Oui, pas la mer. Oui. J'ai une grande crainte des orages. Donc je veux offrir un sacrifice propitiatoire au dieu Neptune. Parce que c'est Neptune qui contrôle les mers, n'est-ce pas? Donc, j'offre, en ce cas, un sacrifice propitiatoire pour que Neptune soit propice, c'est-à-dire favorable. Donc, c'est un sacrifice de propitiation. Mais c'est moi qui l'offre. Moi, je suis le sujet des deux cas. Je suis le sujet de ce sacrifice. C'est moi qui offre le sacrifice d'expiation. C'est moi qui offre le sacrifice de propitiation, ce sacrifice propitiatoire. Les deux cas, c'est moi qui offre ce sacrifice, n'est-ce pas? Et dans l'Ancien Testament, le jour de l'expiation, c'était les Juifs, par leurs prêtres, qui offraient ces sacrifices, n'est-ce pas? Et le grand prêtre prenait le sang d'un bouc et d'un chèvre, oui. Sur l'autel, dans le Saint des Saints, nous reprendrons ce point quand nous examinerons tout à l'heure l'Épître aux Hébreux. Et donc, ce sont les êtres humains, par le grand prêtre, qui offrent ce sacrifice. Les êtres humains sont les sujets. C'est eux qui offrent ce sacrifice, n'est-ce pas? Et Dieu de sa part, il devient propice envers le prêtre et sa famille et envers le peuple. C'est un sacrifice qui annule le péché, donc c'est un sacrifice d'expiation, mais à la fois qui rend Dieu propice. C'est Dieu qui a donné ce sacrifice, c'est son plan. C'est à son tabernacle, il a donné les dimensions et les plans pour ce tabernacle et plus tard pour le temple. Mais en fin de compte, ce sont les personnes, les individus, par leurs prêtres qui offrent le sacrifice, n'est-ce pas? Et c'était un sacrifice à la fois d'expiation et propitiatoire. Ça annulait le péché par la promesse de Dieu, par le versement du sang, et à la fois ça rendait Dieu propice. Donc, c'était un mort propitiatoire. Je reviendrai à ce point plus tard. Mais est-ce que c'est ça que ça veut dire ici? Dans 1932, en Angleterre, il y avait un professeur par le nom de Dodd, D-O-D-D, C-H, Dodd. Dans le temps, il enseignait à l'université de Manchester. Ensuite, il est allé à Cambridge. Il est devenu professeur du Nouveau Testament à Cambridge. Quand je suis allé en Angleterre en 1972 pour faire mon doctorat du troisième cycle à Cambridge, Dodd était encore vivant. C'était un des professeurs libéraux et pieux. Il était un bon... Aujourd'hui, les libéraux, en général, ne sont pas pieux. Je ne sais pas si c'est mieux ou non. Au moins, c'est plus clair. Mais il était un homme avec une théologie très libérale, mais avec une piété honnête quand même. Nous l'avons entendu sur une poste radio dans 1972 ou 1973. Il avait à ce point 90 ans. Et quelqu'un l'a interviewé sur British Broadcasting Corporation, BBC, et on lui a posé toutes sortes de questions de sa vie. Il était encore extrêmement clair dans sa pensée. Il avait toute sa force. C'était un homme formidable. Et on lui a posé la question, Monsieur le professeur, si par hasard, je n'ai aucune idée comment, mais si par hasard, chaque manuscrit grec du Nouveau Testament, et chaque édition grecque du Nouveau Testament publié serait, je ne sais pas comment, mais serait détruit. Quel pourcentage pourriez-vous écrire par mémoire pour nous donner de nouveau le Nouveau Testament grec? Quel pourcentage? Oh, il a répondu, tout le Nouveau Testament. Tout le Nouveau Testament? Mais oui, ce n'est rien qu'un petit livre. Et tout d'un coup, on s'en aperçoit qu'il y a des érudits qui connaissent le texte dans un certain sens, avec un grand détail. Il avait mis à cœur, en mémoire, tout le texte grec du Nouveau Testament. Mais en 1932, il a écrit un petit essai qui est publié deux années plus tard dans son livre « The Bible and the Greeks », « La Bible et les Grecs ». Et dans cet essai, il a insisté que la notion de propitiation d'une mort propitiatoire ne faisait pas du sens du tout. Parce que chez les païens, l'individu est le sujet. Mais dans le Nouveau Testament, c'est Dieu qui est le sujet. C'est Dieu qui présente Jésus-Christ comme un sacrifice de quoi? Si c'est un sacrifice de propitiation, si c'est un sacrifice, si c'est une mort propitiatoire, comment est-ce que ce sacrifice présenté par Dieu peut rendre Dieu propice? Est-ce que Dieu peut rendre Dieu propice? N'est-ce pas vrai que Dieu est déjà tellement propice qu'il nous a donné son Fils unique? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu est tellement propice qu'il nous donne son Fils, comment donc faut-il le rendre encore plus propice s'il est déjà si propice qu'il nous donne son Fils? Donc, il faut nier que c'est une mort, que c'est un sacrifice propitiatoire. Il n'y a pas de propitiation ici. Il y a tout simplement l'expiation. Et il a essayé donc de démontrer que les mots en hébreu et en grec ont ce sens d'expiation, mais pas de propitiation. Et en général, dans le monde occidental, Dodd a gagné son point. En fin de compte, il y avait de bonnes réponses, mais ça a pris plusieurs années. Dans 1955, un Français, Roger Nicole, le frère de J.M. Nicole, a publié un essai de 40 pages dans Westminster Theological Journal, qui a essayé de démontrer que les verbes en grec et en hébreu, les termes en grec et en hébreu, avaient la notion véritablement de propitiation. Et en 1961, un Australien nommé Leon Morris, M-O-R-R-I-S, a écrit un livre, « The Apostolic Preaching of the Cross », qui est encore imprimé aujourd'hui et qui vaut la peine à lire. Encore un autre livre à ajouter à ces quatre, peut-être. The Apostolic Preaching of the Cross. Leon Morris a écrit quatre livres au sujet de la croix et de l'expiation. Trois livres, je veux dire. Et c'était le premier et le meilleur de ces trois. Et ils ont démontré qu'on ne peut pas éviter le sens de la colère qu'on trouve dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Quoi faire avec la colère de Dieu? Dans un sens ou un autre, il faut parler de la propitiation parce que Dieu est véritablement contre nous en colère. Quoi faire avec la colère de Dieu? Et Dodd et bien d'autres ont répondu en effet. La Bible parle de la colère de Dieu, mais ce n'est pas véritablement la colère. C'est tout simplement une façon de parler de la justice de Dieu. Quand nous faisons de méchantes choses, il y a des méchants résultats. Si nous faisons quelque chose qui est coupable, il y a des résultats inévitables dans nos vies. Mais ça fait partie de la justice de Dieu, mais il n'y a rien de colère dans cela. Il n'y a rien de personnel dans cela. C'est tout simplement la justice de Dieu. C'est tout simplement un principe de justice. La justice d'amour. La justice de Dieu qui nous aime, qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils unique. Donc ça prend l'expiation. Il faut annuler la culpabilité. Il faut annuler ce péché. Mais parler de rendre Dieu propice, ça c'est ridicule. Comment est-ce qu'un Dieu qui est déjà si propice envers nous qu'il nous donne son Fils, comment doit-il devenir propice davantage pour nous pardonner? Et Leon Morris et les autres ont répondu, mais ne comprenez-vous pas? Ça, c'est l'Évangile. Dieu est à la fois pour nous et contre nous. Dieu est à la fois en colère contre nous à cause de nos péchés, à cause de notre culpabilité, à cause de nos péchés. Autrement, il ne serait pas saint. Mais il est pour nous parce qu'il est un tel Dieu. Il est un Dieu d'amour. Maintenant, nous savons qu'il y a de manières différentes de parler de l'amour, n'est-ce pas? Même dans nos relations humaines, nous savons cela, n'est-ce pas? Par exemple, dans la Sainte Parole, la Bible parle de l'amour de Dieu dans au moins 5 façons. Premièrement, la Bible parle de l'amour de Dieu intra-trinitaire, c'est-à-dire l'amour du Père pour le Fils, l'amour du Fils pour le Père, et ainsi de suite. Surtout chez l'Évangile selon Jean, Jean chapitre 3, le Père aime le Fils et lui donne l'Esprit Saint sans limite. Jean chapitre 5, le Père aime le Fils et donc il veut que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et le Fils aime le Père, Jean chapitre 14. Et donc, tout le monde doit reconnaître, en fin de compte, que Jésus-Christ va à la croix à cause de son amour pour son Père. Ce n'est pas, premièrement, à cause de son amour pour nous, mais à cause de son amour pour le Père. Et il veut faire tout ce que le Père lui donne à faire. Dans ce cas, l'amour de Dieu trouve dans le Fils quelqu'un aimable. Et le Fils trouve dans son Père quelqu'un aimable, n'est-ce pas? Deuxièmement, la Bible parle de l'amour de Dieu dans un sens providentiel. C'est un amour amoral, pas immoral, mais amoral. La Bible insiste, selon le Seigneur Jésus dans le Sermon sur la montagne, que Dieu envoie la pluie et le soleil sur les justes et les injustes. C'est un amour amoral. Ça ne fait pas de distinction entre le bon et le mal, entre les bonnes personnes et les méchantes. Et pour cette raison, le Seigneur Jésus nous enseigne, il nous faut aussi aimer les ennemis, parce qu'après tout, Dieu est un Dieu, dans ce sens de parler, qui envoie son soleil et sa pluie envers les justes et les injustes. C'est une façon de parler de l'amour de Dieu. Troisièmement, la Bible parle des fois de l'amour de Dieu dans un sens par lequel il nous invite. Il est en train de plaidoyer avec nous. Il nous invite. Tourne. L'Éternel ne veut pas voir la condamnation des injustes. C'est un Dieu du prophète Osée. C'est un Dieu qui nous invite. Il aime les pécheurs et il nous invite. Quatrièmement, la Bible parle de l'amour de Dieu dans un sens d'élection, de prédestination. Deutéronome, chapitre 7, et Deutéronome, chapitre 10. Pourquoi est-ce que Dieu a fixé son amour sur Israël? Parce qu'Israël était plus grand, ou plus sage, ou plus nombreux, ou plus fidèle? Non, il a fixé son amour sur Israël parce que Dieu l'a aimé. Il a aimé parce qu'il a aimé. C'était son choix. Donc, nous lisons dans Malachie, chapitre 1, « Israël, j'ai aimé, et Ésaü, j'ai haï. » Et nous lisons de paroles semblables dans Romains, chapitre 9 et ailleurs. Dans ce sens, l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour en train de plaidoyer avec les pécheurs. Ce n'est pas un amour amoral. C'est un amour d'élection, de souveraineté, de choix. Et cinquièmement, de temps en temps, la Bible parle de l'amour de Dieu dans un sens conditionnel. Dans Jude, par exemple, les chrétiens doivent se préserver dans l'amour de Dieu, qui signale que c'est possible qu'on ne se préserve pas dans l'amour de Dieu. ou dans les 10 commandements, dans le Décalogue, par exemple. Il maintient son amour à des milliers de générations qui l'aiment et qui observent ses commandements. Donc, dans la famille, dans l'alliance, il faut se préserver dans l'amour de Dieu. Maintenant, nous sommes au courant de toutes ces formes d'expression, ces formes de parler de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est évident que nous avons même dans nos vies quotidiennes des façons de parler différemment de notre amour même. Ce n'est pas si difficile à comprendre. Par exemple, j'ai une fille âgée de 26 ans et j'ai un garçon dans le militaire. Supposons que ma fille, âgée de 26 ans maintenant, devient une prostituée sur les chemins de Los Angeles. Est-ce que je cesserai de l'aimer? Je pense que non. Mon amour pour ma fille, après tout, est inconditionnel. Si mon fils commençait à vendre les drogues sur les chemins de New York, est-ce que je perdrais mon amour pour lui? Je pense que non. Mon amour pour mon fils est inconditionnel, n'est-ce pas? Mais quand ces deux enfants étaient plus jeunes, étaient encore au foyer, si l'un d'eux prenait la voiture et je lui avais dit, tu dois revenir avant minuit. Si c'était minuit et 10 et il n'y avait pas une bonne raison pour être en retard, il connaîtrait la colère du père. Dans ce sens, mon amour n'était pas inconditionnel. Il fallait que mes deux enfants se maintiennent dans l'amour de leur père. Vous voyez, c'est notre façon de parler. Et nous voyons les mêmes différences, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu? Assez souvent, on nous dit dans les cercles évangéliques, l'amour de Dieu est inconditionnel. Vrai ou pas vrai? Ça se dépend. Ça se dépend. Après tout, dans le sens de Jude, dans le sens de la Décalogue, ce n'est certainement pas vrai. Il faut se maintenir dans l'amour de Dieu. Dans le sens de la souveraineté de Dieu, d'élection, oui, c'est certainement sûr. Dans le sens de sa providence, c'est certainement sûr. Il envoie son soleil, sa pluie sur les justes et les injustes. C'est un amour amoral, ça ne dépend pas de nous du tout. Dieu aime tout le monde de la même façon, vrai ou pas vrai? Ça se dépend. Dans le sens où il envoie sa pluie et son soleil sur les justes et les injustes, mais c'est bien évident, c'est un amour amoral, il aime tout le monde exactement de la même façon, il invite tout le monde aussi, dans ce sens, il a un amour pour tout le monde, grec et juif, chaque personne. Dans un autre sens, Israël j'ai aimé, Ésaü j'ai haï. Fondé dans l'élection de Dieu. Je l'ai aimé parce que je l'ai aimé. Ce n'était pas pour une raison dans Israël ou en nous, en fin de compte. Donc, il y a des sens différents. Et ce n'est pas surprenant. Je peux dire, j'aime travailler avec le bois. J'aime me promener sur ma motocyclette. J'aime mon épouse. Mais franchement, je ne devrais pas mentionner ces trois phrases à la fois. Surtout si mon épouse est présente. Parce qu'il y a de sens différents d'aimer, n'est-ce pas? Ça dépend du contexte, n'est-ce pas? Et de même façon, quand la Bible parle de la colère de Dieu et de l'amour de Dieu, il ne faut pas en tirer la conclusion que parce que la Bible nous parle de l'amour de Dieu, comme dans Jean chapitre 3, verset 16, il n'y a pas de sens du tout par lequel la Bible peut nous parler de la colère de Dieu. Ça dépend complètement du contexte. Dans un certain sens, Dieu est fâché contre nous. Il est en plein colère contre nous. Pas parce qu'il a perdu sa discipline. Pas parce qu'il se fâche tout simplement. Et de même façon, quand la Bible parle de l'amour pour nous, c'est pas parce qu'il tombe en amour. Dieu ne tombe pas en amour, comme si c'est une faillite, ou une faiblesse même. Ou il ne pouvait pas se contrôler, pauvre Dieu, il est tombé en amour avec nous. Nous avons des manières de parler de l'amour de Dieu qui sont tellement remplies de sentiments, sans précision exégétique, sans compréhension théologique. Mais la Bible nous enseigne qu'à la fois, Dieu est contre nous, en colère. Vous n'avez que lire l'Ancien Testament. Vous n'avez que lire l'Apocalypse. Vous n'avez que lire Romains chapitre 1, verset 18 à chapitre 3, verset 20. Ça, c'est le contexte de ce passage qui traite l'expiation de Dieu. Et le mot utilisé ici, hilasterion en grec, est utilisé dans la Bible grecque, c'est-à-dire la traduction de l'Ancien Testament, 21 fois. 14 fois sur 21, ça signale la couverture de l'arche de l'Alliance, la place où on versait le sang du bouc et du chèvre, une fois par année, par la main du grand prêtre, pour rendre Dieu propice, pour annuler le péché et pour rendre Dieu propice envers le grand prêtre lui-même et sa famille et envers le peuple. Et c'était ordonné par Dieu lui-même. Et maintenant, Paul utilise exactement la même expression ici. Car il n'y a pas de distinction, verset 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme expiation, comme sacrifice propitiatoire. Nous ne pouvons pas avoir propitiation sans expiation. Il faut annuler le péché. Mais la raison pour laquelle la propitiation, une mort propitiatoire est nécessaire, c'est parce que Dieu est contre nous, en colère, avec justice. Et ce dont nous avons besoin, ce n'est pas tout simplement l'annulement du péché, c'est la réconciliation avec Dieu. Maintenant, j'ai deux ou trois autres choses à dire à cet égard après la pause, et ensuite nous allons procéder dans le passage pour examiner ensemble chapitre 4 aussi. C'est le temps de la pause, je pense.